Voici donc votre rendez-vous avec l'accent des autres, l'actualité des médias francophones publics, avec la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, RFI, France Inter et la RTBF. Et on va commencer avec ces nouvelles révélations sur un double assassinat au Congo, Amélie Tulé. C'était il y a 10 ans, sous la présidence de Joseph Kabila, l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana.
Oui, le 2 juin 2010, la découverte du corps sans vie du militant des droits humains avait provoqué l'effroi en RDC. Le corps de son assistant n'a jamais été retrouvé. Et pour la première fois, deux policiers reconnaissent avoir participé de manière plus ou moins directe à ce crime.
En Belgique, l'épilogue dans le procès Maouda du nom d'une petite fille kurde tuée par un tir de policier. C'était lors d'une course-poursuite en 2018, Jacques Remers.
Oui, la police qui avait pris en chasse une camionnette dans laquelle se trouvaient des migrants. Le policier à l'origine du tir mortel est condamné à 1 an de prison avec sursis pour homicide involontaire.
À Montréal, nous évoquerons avec vous, Benoît Audet, cette série de fusillades mortelles dans plusieurs quartiers de la ville. Une violence qui inquiète depuis quelques mois.
Oui, et c'est la mort tragique d'une adolescente qui a soulevé l'indignation et relancé un débat sur un meilleur contrôle des armes.
En Suisse, Virginie Mater, c'est la création d'une identité numérique qui fait débat.
Oui, car le peuple suisse est amené à se prononcer sur l'introduction du concept d'identité numérique en votation le 7 mars prochain, avec en toile de fond la question de la protection des données par des entreprises privées.
Enfin, elle est la doyenne des Français et même des Européens et des Européennes. Lucile Randon a fêté cette semaine ses 117 ans, Éric Delvaux.
Oui, celle qui est devenue Sœur André a même survécu au Covid. Reportage à suivre dans sa maison de retraite où le personnel lui a donc souhaité jeudi son anniversaire.
Beaucoup de réactions, tout d'abord après votre enquête à Radio France Internationale, Amélie, enquête donc au Congo sur l'assassinat en 2010 du militant des droits humains Floribert Chebeya et son assistant Fidel Bazana, avec donc de nouvelles révélations.
Deux policiers congolais qui ont maintenant quitté le pays témoignent à visage découvert et ils admettent avoir eux-mêmes participé au meurtre. Hergile Ilunga et Alain Kayeye Lungwa donnent des détails précis, des noms, des informations qui concordent avec d'autres témoignages. Selon leur récit, Floribert Chebeya et Fidel Bazana sont morts étouffés. Le corps jamais retrouvé de Fidel Bazana aurait été enterré sur une parcelle appartenant à un officier congolais. Cet officier est aujourd'hui général.
Et ces révélations, Amélie, suscitent une véritable onde de choc au Congo.
Oui, Floribert Chebeya était une figure en RDC. Il dirigeait l'ONG La Voix des Sans-Voix. C'était le plus connu des défenseurs des droits humains. Il était aussi le plus menacé. À l'époque, c'est Joseph Kabila qui préside la République démocratique du Congo. Le corps de Floribert Chebeya, on le rappelle, a été retrouvé dans une voiture en banlieue de Kinshasa le 2 juin 2010. Le crime est alors maquillé comme une affaire de mœurs, mais personne n'y croit. Aujourd'hui, les parties civiles demandent la réouverture du procès et l'arrestation notamment du général John Numbi, avec qui Floribert Chebeya avait rendez-vous le jour où il a été assassiné.
Et puisque vous évoquez cette demande de réouverture du procès, on notera la réaction de l'ambassade de Belgique qui souhaite voir l'ensemble des auteurs condamnés. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo plaide pour une intervention de la justice congolaise et donc la relance de la procédure à propos de ce double assassinat. C'est en revanche un homicide involontaire qui a été retenu à l'égard d'un policier en Belgique. Jacques, le tribunal correctionnel a rendu son jugement dans l'affaire Maouda. Le policier qui a tiré sur la camionnette dans laquelle se trouvaient des migrants et notamment aussi la petite fille a donc été reconnu coupable.
Oui, coupable d'homicide involontaire par défaut de précaution ou de prévoyance. Il écope d'une peine d'un an de prison avec sursis et d'une amende. En mai 2018, il avait tiré sur une camionnette circulant à vive allure, tuant une fillette kurde de 2 ans qui se trouvait à bord du véhicule. Il n'aurait pas dû sortir son arme, a estimé le tribunal, qui a donc tenu compte de son comportement dangereux et aussi de ses regrets. Mais une peine était nécessaire, a dit le tribunal, pour prendre en compte la gravité des actes et pour qu'ils ne soient pas banalisés. Le conducteur de la camionnette a quant à lui été condamné à 4 ans de prison ferme.
Oui, par ailleurs, Jacques, les parents de Maouda ont finalement été régularisés. C'est une décision prise en marge de ce jugement.
Elle date en effet de la fin de l'année dernière, mais elle n'a été rendue publique que cette semaine, comme l'a expliqué le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Sami Madi.
Cette décision, elle a été prise en décembre. Les parents avaient déjà eu un permis temporaire qui devait être prolongé pendant un an chaque année. Et voilà, à un moment donné, en tant que secrétaire d'État, on a un pouvoir discrétionnaire et de se dire que ces parents-là, ils ont quand même vécu un traumatisme. Leur enfant est ici, enterré. Et donc, je pensais qu'il était normal de donner à ses parents aussi un peu quelque part un repos et de la paix et de leur dire que, en tout cas, leur permis, leur régularisation est en ordre pour qu'ils puissent avoir leur deuil de manière apaisée.
L'affaire Maouda se clôture donc sur ce jugement et cette régularisation. Restent les nombreuses questions que cette affaire a soulevées sur la politique d'accueil de la Belgique.
Au Canada, à présent, la ville de Montréal est frappée par des fusillades mortelles. Les auteurs de ces fusillades utilisent leurs armes souvent en plein jour dans des quartiers densément peuplés de la métropole québécoise. Benoît Audet, le meurtre d'une adolescente fin de semaine dernière a créé une véritable onde de choc.
Oui, elle s'appelait Myriam Boundaoui, elle avait 15 ans et elle s'est retrouvée à la mauvaise place au mauvais moment. Elle a reçu une balle en pleine tête en se retrouvant au centre d'une fusillade qui ne la concernait pas.
Et ce drame s'ajoute à une longue série d'événements violents au cours des derniers mois.
Le nombre de fusillades montre une hausse inquiétante et marquée à Montréal. En 2020, le nombre d'événements dans lesquels des armes à feu étaient utilisées à Montréal a atteint 440, une augmentation de 15% par rapport à 2019. Et rien ne démontre encore une tendance à la baisse pour 2021.
Alors au Canada, le contrôle des armes à feu relève du gouvernement fédéral. Et Benoît, la ville de Montréal interpelle Ottawa dans ce dossier.
Oui, écoutons là-dessus la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
De donner le fardeau aux villes de gérer et réglementer les armes de poing, ce n'est pas la bonne chose à faire et ça ne fonctionne pas comme ça puisqu'on sait que les armes se promènent de personne en personne, d'une ville à l'autre ou même de province en province.
La police de Montréal entend aussi faire de la lutte contre les armes à feu une priorité. Le chef de la police a annoncé la création d'une escouade spéciale qui va se consacrer uniquement à la lutte contre les armes à feu, tout en augmentant les patrouilles dans les quartiers de la ville touchés par la violence.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
On va parler à présent de la transition numérique. Le sujet fait débat dans de nombreux pays et en Suisse, Virginie Mater, la question de l'identité numérique sera prochainement soumise au vote.
Et comme dans tout pays quadrilingue qui se respecte, la formule retenue est anglo-saxonne, on parle d'EID. Il s'agit d'introduire une identité numérique pour permettre à la population de recourir à des services en ligne, par exemple pour ouvrir un compte bancaire, conclure un abonnement ou encore obtenir des documents officiels. Aujourd'hui, de plus en plus d'opérations se font donc sur Internet et la Confédération a souhaité la création d'une identification sûre et reconnue par l'État. La loi votée par le Parlement prévoit une répartition des tâches entre la Confédération et le secteur privé.
Ça veut donc dire que des données cruciales seraient aux mains d'entreprises privées.
C'est le cœur du débat. Un comité d'opposants à cette loi a lancé un référendum, c'est pour ça d'ailleurs que le peuple est appelé à se prononcer, et ce comité conteste le principe que des entreprises privées émettent et gèrent des identités numériques, car l'identité numérique s'apparente à une pièce d'identité et seul l'État devrait gérer ces données. Par ailleurs, le prix de cette prestation pourrait varier d'une entreprise à l'autre et 3 degrés de sécurité sont prévus, donc 3 tarifs. Cela créerait des discriminations entre individus, toujours selon les opposants. La Confédération, elle, en revanche, estime que les données sont suffisamment protégées par la nouvelle loi. L'État assumerait sa fonction souveraine en vérifiant l'identité des personnes intéressées avant de faire intervenir des entreprises privées pour les aspects techniques. De plus, les fournisseurs d'EID n'auraient pas le droit d'utiliser ces données autrement que pour l'identification, ni de les transmettre.
Virginie, est-ce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà instauré cette identité numérique ?
En Europe, c'est la Finlande qui a ouvert la voie en créant en 1999 déjà une carte d'identité dotée d'une identité numérique. De nombreux pays ont suivi, par exemple l'Estonie, la Belgique ou encore l'Allemagne. Mais les modèles sont sensiblement différents les uns des autres.
Voilà, le vote du peuple suisse sur l'identité numérique, donc ce sera le 7 mars prochain. On va se quitter sur un anniversaire, celui d'une dame en France qui a survécu au Covid et elle vient de fêter ses 117 ans. C'est la doyenne des Français et même des Européens et des Européennes, donc forcément. Lucille Randon, institutrice devenue Sœur André à l'âge de 40 ans. Elle a fêté son anniversaire ce jeudi dans sa maison de retraite à Toulon, dans le sud de la France. Christelle Marquès l'a rencontrée.
Je me sens aujourd'hui très bien. parce que j'ai bien dormi.
Vous avez eu le Covid. Ça aussi, vous avez réussi à dépasser le Covid, ma sœur.
Mais je n'ai pas su. On me l'a dit après. Alors, je l'ai vécu tant bien que mal.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui?
Oh là là, des messages, il y en a. De s'aimer les uns les autres. Et de se porter au secours des uns des autres. Au lieu de se martyriser.
Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire.
Pas joyeux, parce que je suis séparé de ma famille. Et ils ne peuvent pas venir me voir.
Ils vous verront à distance et vous pourrez leur parler. Et ils sont très impatients.
Mais il y aura les petits.
Il y aura tout le monde.
Oh, ça c'est agréable.
Voilà.
La doyenne des Européens et des Européennes, donc 117 ans, propos recueillis par Christelle Marquez pour France Inter. Merci à tous les contributeurs des médias francophones publics. C'était l'accent des autres, l'essentiel de l'actualité francophone, avec comme chaque semaine RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Excellent week-end, bonne semaine à tous et rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine à la même heure.